Il est 18h, le journal, Benoît Bouscarel, bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. Des villages entiers qui se vident de leurs habitants, des camps gigantesques fonctionnant dans le secret le plus absolu et une justice inexistante. Les persécutions visant la communauté ouïghour en Chine sont difficiles à dimensionner, mais un rapport de l'ONU sur la question donne en cette fin d'été des chiffres proprement incroyables. Les précisions dans un instant d'Éric Biegala. En France, la pré-rentrée des profs aujourd'hui, parmi les nouveautés attendues cette année et à laquelle les enseignants doivent se préparer, le dédoublement des classes de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire reporte dans ce journal d'Hakim Kasmi à Argenteuil. Le prélèvement à la source se fera, confirmation du porte-parole du gouvernement tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Il indique tout de même que quelques questions sont encore à régler. Nous écouterons Benjamin Griveaux dans ce journal. Et puis l'enquête de cette édition, signée ce soir Laetitia Chérel du service investigation de Radio France sur les coulisses des tensions intra-gouvernementales qui ont mené à la démission fracassante de Nicolas Hulot cette semaine. Les autorités allemandes viennent de prendre une décision qui jette de nouveau une lumière crue sur la situation des Ouïghours en Chine. Pas plus tard qu'hier, Berlin a en effet acté l'arrêt et l'annulation de toutes les procédures d'expulsion en cours visant les demandeurs d'asile ouïghours vers leur pays d'origine, la Chine. Les membres de cette minorité musulmane sont régulièrement persécutés dans le pays. Les témoignages de réfugiés ou les constatations faites simplement sur place en attestent depuis longtemps. Mais un récent rapport de l'ONU donne une idée de l'échelle à laquelle est menée cette politique d'oppression et de répression. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Benoît.
Ce serait d'après l'ONU plus d'un million de Ouïghours qui seraient retenus, déplacés, emprisonnés, peut-être même torturés actuellement dans le nord-ouest de la Chine et ce sans raison officielle ni procès.
Oui, cela fait 2 ans en effet que ces camps ont fleuri un peu partout dans la province du Xinjiang dont la population majoritairement musulmane est constituée à 45% d'Ouïghours turcophones. Officiellement, il s'agit de centres de rééducation par le travail ou de centres de déradicalisation, mais tous, on en a compté au moins 73 pour le moment, tous sont bordés de hauts murs d'enceinte, la plupart du temps flanqués d'une station de police armée, si l'on en croit les appels à projets publiés officiellement par les autorités chinoises avant leur construction. Ils ressemblent beaucoup plus à des camps d'internement qu'à des écoles. Quelques rares témoignages d'Ouïghours ayant fait un séjour de rééducation dans ces centres ne laissent que peu de doutes quant à l'objectif poursuivi. Il s'agit bien d'y casser les volontés, potentiellement rebelles, et particulièrement les faire rompre avec tout ce qui pourrait rappeler l'islam. Certains pensionnaires ont ainsi témoigné avoir été physiquement obligés de boire de l'alcool ou de consommer de la viande de porc. Cette flambée de construction de camps est concomitante de l'arrivée à la tête du parti pour la province du Xinjiang de Quan Quango, anciennement en poste au Tibet, où il s'était déjà illustré en instituant un contrôle social draconien et un véritable état policier. Alors combien d'Ouïghours ou de Kazakhs, combien de musulmans en tout cas sont passés par ces camps de rééducation ou de déradicalisation ces 2 dernières années, c'est difficile à dire. Un seul document interne des services de sécurité d'un des secteurs de la province et ayant fuité à la fin de l'année dernière laisse à penser que 10 à 12% de la population a pu d'ores et déjà se retrouver internée, soit en effet extrapolé à l'échelle de la province autour d'un million de personnes. Les quelques reportages qui ont d'ailleurs pu être réalisés récemment dans les villes ou les villages du Xinjiang sont à cet égard éloquents. Celui publié dans le Financial Times début août était titré ainsi « Mais où sont donc passés les gens ?» Dans les grandes villes de la province, en effet, des rues entières ont été vidées de leurs habitants. La plupart ont été internés.
Merci Éric Biegala. Au Cambodge, c'est la justice elle-même qui est accusée de faire de la politique et d'accompagner l'appareil répressif du pays. Exemple aujourd'hui avec la condamnation du réalisateur australien James Ricketson à 10 ans de prison ferme. Un verdict prononcé pour espionnage, ce qui fait bondir les associations de défense des droits humains. Les précisions de la correspondante de France Culture à Phnom Penh, Éléonore Sock.
Après 6 jours de procès agités, le verdict est tombé. L'Australien James Ricketson est condamné à 6 ans de prison pour espionnage et collecte d'informations susceptibles de compromettre la défense nationale du Cambodge. « Dites-moi pour le compte de quel pays j'espionne » a-t-il vivement réagi face à ses juges. Ricketson a été arrêté en juin l'année dernière pour avoir fait voler un drone lors d'une manifestation du parti d'opposition. Parti ayant ensuite été dissous, laissant la voie libre au Premier ministre Hun Sen, il a remporté le mois dernier la totalité des sièges lors des élections législatives. Le réalisateur de documentaires de 69 ans vit et travaille depuis des années dans le royaume. Il y fait figure de troublion en critiquant vertement le pouvoir, mais aussi les organisations non gouvernementales avec qui il a déjà eu des démêlés judiciaires. Beaucoup d'observateurs considèrent l'affaire comme une grave injustice dans un pays où les magistrats ne sont pas indépendants. Ricketson est utilisé comme un bouc émissaire par le gouvernement pour réprimer l'opposition politique. C'est ce qu'a déclaré Phil Robertson de l'ONG Human Rights Watch. Il a appelé le gouvernement australien à réagir avec plus de vigueur, alors que Canberra a signé un accord controversé avec Phnom Penh pour y réinstaller ses demandeurs d'asile. Ricketson et ses avocats ont un mois pour faire appel ou demander une grâce royale.
Éléonor Sok, un des principaux chefs rebelles des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, aurait été tué aujourd'hui. Alexander Zakharchenko serait mort dans une explosion dans la région de Donetsk. C'est en tout cas ce que rapporte l'agence russe Interfax, qui cite un responsable de l'administration séparatiste. Zakharchenko dirigeait depuis 2014 la République populaire de Donetsk. Il avait été un des signataires des accords de paix à Minsk en 2015, mais il avait refusé de respecter le cessez-le-feu dans la région de Debaltseve, où il avait été blessé au combat. Une nouvelle rencontre aujourd'hui à Bruxelles entre le négociateur européen en chef sur le Brexit, Michel Barnier, et le ministre britannique chargé du dossier, Dominic Raab. Pas énormément d'avancées pour faire dans la litote lorsqu'il s'agit de tirer le bilan des discussions du jour entre les deux hommes, car même s'ils se félicitent de quelques progrès, le temps désormais presse et la question irlandaise n'est toujours pas réglée. Michel Barnier.
Sur l'ensemble des sujets de la future coopération, notre objectif est de bâtir avec le Royaume-Uni un partenariat sans précédent. Semaine après semaine, pas à pas, nous éliminons des sujets qui ont fait l'objet d'un accord. Par exemple, sur la question des données des passagers aériens, pour mieux tracer et identifier les individus impliqués dans des actes de terrorisme, nous avons progressé. Évidemment, le focus se fait de plus en plus sur les sujets qui restent, sur les indications géographiques, qui sont importantes non seulement pour les 27, mais aussi pour beaucoup de producteurs du Royaume-Uni. J'ai exprimé à nouveau mon inquiétude sur la gouvernance avec le rôle de la Cour de justice et puis sur la question de l'Irlande, évidemment, ce qui est un point, j'ai dit, crucial pour obtenir un accord. Voilà. Donc moi, je suis déterminé, comme je l'ai dit depuis le début, à trouver un accord au mois d'octobre. Nous avons toujours cet objectif.
Pas de progrès pour l'instant du moins dans les négociations économiques entre les USA et le Canada qui tentent de moderniser l'ALENA, leur accord de libre-échange. En cause, la détermination des Canadiens à sauver leur système de protection, notamment des producteurs de lait, système que les Américains voudraient faire sauter. Les choses avancent, mais on n'y est pas, explique en substance ce soir le Premier ministre Trudeau. Le Canada, où la justice ordonne la suspension de l'agrandissement d'un oléoduc. Le projet est jugé stratégique et prioritaire par le gouvernement, mais son impact environnemental, en particulier sur les mammifères marins, a été mal mesuré par les autorités fédérales. C'est ce qu'argumente la Cour fédérale d'appel pour exiger et pour expliquer l'annulation du permis de travaux émis par l'Office national de l'énergie. Les explications depuis Montréal de Pascal Guéricola.
Selon la Cour d'appel fédérale, les communautés autochtones n'ont pas été suffisamment consultées alors que l'oléoduc Trans Mountain traverse leur territoire. Autre irritant, le manque d'évaluation environnementale sur le futur trafic maritime. Si le pétrole coule à flot entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, cela multiplie par 7 le nombre de pétroliers partant chaque mois du port de Burnaby, ce qui accroît bien sûr le risque de déversement pétrolier possible. Ce coup d'arrêt du projet réjouit bien sûr les Premières Nations et les écologistes qui s'opposent depuis de nombreuses années à Trans Mountain. Mais il provoque la fureur de la Première ministre de l'Alberta qui a l'impression qu'on a laissé tomber sa province. Elle réclame du gouvernement canadien qu'il conteste la décision devant la Cour suprême. Et d'ores et déjà, elle retire son appui à la stratégie nationale contre les changements climatiques. Cela signifie que l'Alberta ne va pas augmenter le prix de la tonne de carbone comme prévu. La première ministre tient mordicus à la mise en service d'un oléoduc qui permettra enfin au pétrole albertain d'avoir accès aux marchés asiatiques.
Pascal Guéricola à Montréal pour France Culture. Aux Pays-Bas, une attaque au couteau ce matin dans la gare d'Amsterdam centrale a fait 2 blessés graves. L'assaillant présumé, dont les motivations restent à cette heure inconnues, a été blessé par balle au moment de l'intervention de la police. Devant le tribunal de Dresde en Allemagne, 10 ans de prison pour un sympathisant d'extrême droite originaire de Saxe qui avait perpétré 2 attentats à la bombe en septembre 2016. Il n'y avait pas eu de victime. L'un des 2 attentats avait été perpétré devant l'entrée d'une mosquée. En Angleterre, dans le même temps, c'est un partisan du groupe État islamique qui a été condamné à la prison à vie pour avoir projeté d'assassiner la première ministre britannique Theresa May. C'était en novembre 2017. En France, avant de parler de la rentrée politique, dans quelques minutes, arrêtons-nous sur la rentrée scolaire. Elle se prépare activement. Un peu plus de 880 000 enseignants ont fait aujourd'hui leur pré-rentrée. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir.
Parmi les nouveautés de la rentrée, la poursuite du déploiement des classes dédoublées en zone d'éducation prioritaire. Après les CP l'an dernier, ce sont les CE1 qui en bénéficieront cette année. Vous étiez aujourd'hui pour vérifier l'avancée des travaux à l'école Henri Vallon à Argenteuil dans le Val d'Oise.
Ambiance studieuse pour les quatre enseignants d'Henri Vallon qui auront cette année des CE1 dédoublés. Une mesure qui va demander la coordination entre les enseignants, mais surtout de mieux personnaliser l'accompagnement des élèves, notamment ceux qui sont le plus en difficulté, selon Élise Magnet, qui aura pour la première fois une classe dédoublée cette année.
Ça va nous aider tout simplement pour pouvoir vraiment différencier les apprentissages. C'est quelque chose qu'on fait dans les autres niveaux avec les effectifs habituels. Mais concrètement, c'est plus difficile à mettre en place, que ce soit la manipulation, la différenciation, le travail individualisé. On le fait déjà, mais là, ça va permettre vraiment de le mettre en place à 100%, je pense.
Donc comme ça, les élèves qui seront plus en difficulté, par exemple en lecture, vous pourrez mieux les aider dans l'heure de cours ?
Concrètement, je pense que oui, ça nous permettra d'avoir du temps pour les élèves en difficulté, mais aussi, et c'est parfois difficile, pour les élèves qui sont en réussite et qui peuvent aller plus loin. Et ça, parfois, on a des difficultés à être disponible pour eux et à leur proposer d'aller plus loin. Et ça, je pense qu'on va pouvoir aussi le faire.
Mieux aider les élèves en difficulté, mais aussi favoriser l'apprentissage de notre langue, car dans ce quartier d'Argenteuil, le français n'est pas toujours la première langue parlée à la maison. Carole Calvez, la directrice de l'école Henri Vallon.
Ce sont des élèves qui n'ont pas forcément accès à la langue française, encore que beaucoup d'entre eux parlent malgré tout le français à la maison. Mais l'effet petit groupe, en fait, nous permet de favoriser justement des ateliers de langage, de travailler le vocabulaire, la langue française de différentes manières, hein, au travers des albums, au travers de récits en tout genre. Et c'est une grande chance pour nos élèves. Ça leur permet de progresser beaucoup plus rapidement dans la langue.
Cette année, 75% des établissements de REP+ bénéficieront du dédoublement en CE1, un chiffre certes important, mais qui ne doit pas occulter les difficultés de certaines communes qui ne pourront pas appliquer la mesure, faute de classes suffisantes.
Merci beaucoup, Hakim Kasmi. Un non-lieu prononcé en faveur de Gérald Darmanin, la décision est intervenue mi-août, on ne l'a appris qu'aujourd'hui. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics était l'objet d'une plainte déposée par une femme pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance, conformément aux réquisitions du parquet. Dans cette affaire, le juge saisi a rendu une ordonnance de non-lieu. À Châlons en Champagne cet après-midi, les retrouvailles de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand. Voilà quelque temps déjà que le président de la région des Hauts-de-France ne s'était pas montré ouvertement aux côtés de la dissidente ou de l'opposante interne à Laurent Wauquiez, le président du parti Les Républicains, et à sa ligne. Élodie Forêt était sur place cet après-midi à Châlons en Champagne pour France Culture.
Un front anti-Wauquiez, mais toujours à demi-mot. À Châlons, pas question de prononcer le nom du patron des LR. Xavier Bertrand, catégorique, refuse d'y voir un événement de politique politicienne.
Moi, j'ai pas envie de retourner dans le chaudron de la politique politicienne. J'ai entendu qu'on allait signer un pacte. Ah oui, c'est vrai, mais alors certains vont être déçus. C'est un pacte pour l'économie, l'emploi, développer l'agriculture dans la région. On va faire des propositions très concrètes.
C'est pas un pacte anti-Wauquiez.
Non, moi, j'ai pas envie de me rebaigner dans les eaux de la politique aérienne. Je l'ai fait suffisamment. J'avais nagé, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que l'énergie qu'on dépense à ça, c'est pas de l'énergie qu'on dépense pour s'occuper des gens et pour s'occuper de nos régions.
Les coupes de champagne à la main, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse préfèrent donc parler ici de leur amitié plutôt que de leur inimitié avec le patron du parti, de ce qui les rapproche, eux, présidents de région contre Emmanuel Macron.
Nous avons toujours avec Xavier eu une vraie proximité politique. Nous sommes des gaullistes sociaux et c'est vrai que nos régions, nos territoires sont divers, différents, mais que nous nous retrouvons sur l'idée de porter vraiment cette alternative sociale et populaire, mais non populiste, à Emmanuel Macron.
Alternative populaire et pas populiste, comme lors de sa rentrée à Brive, c'est donc discrètement que Valérie Pécresse tacle Laurent Wauquiez. Pécresse-Bertrand, un duo qui fait grincer des dents, une alliance de circonstances, ironise une cadre du parti. Deux poissons beaucoup trop gros pour s'effacer un jour au profit de l'autre.
Élodie Forêt, politique toujours avec cette certitude réaffirmée tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Le prélèvement à la source se fera bel et bien à partir de janvier 2019. Benjamin Griveaux dit n'avoir aucun doute là-dessus, malgré les hésitations présidentielles sur la question. Le prélèvement se fera, a précisé le porte-parole du gouvernement, une fois que des réponses auront été apportées aux questions qu'il reste à régler.
Nous n'allons pas mettre en place une réforme dont nous pensons qu'elle peut générer des incompréhensions ou des difficultés pour nos concitoyens. Les Français ne le comprendraient pas et ils auraient raison de nous en tenir rigueur. C'est évidemment un changement important, même très profond, dans le rapport de nos concitoyens à l'impôt. Et il est normal que nous nous assurions, dans le cas d'une réforme d'une telle ampleur, eh bien que tous les détails soient bien clairs. Il n'y a pas, et c'est ce qu'a dit le président de la République ce matin, il n'y a pas de réforme mécanique ou technique qui se ferait de manière automatique. Notre rôle, c'est de répondre aux questions que se posent nos concitoyens et donc d'apporter des réponses précises et pour le coup techniques eh bien à tous les cas de figure. Ce sont ces détails qui font la vie de nos concitoyens bien plus que d'autres sujets parfois débattus dans le débat public.
Et puis on sait désormais que le gouvernement sera au complet d'ici mardi, confirmation du même Benjamin Griveaux, indiquant donc que Nicolas Hulot sera bien remplacé dans un délai rapide, prochain Conseil des ministres mercredi. Bonsoir Laetitia Chérel.
Bonsoir.
Du service investigation de Radio France, c'est le retour de l'enquête du vendredi soir. Alors justement avec vous, on s'arrête quelques instants sur cette démission fracassante et surprise du ministre de l'écologie qui a marqué la semaine politique. En partant, Nicolas Hulot a dénoncé l'omniprésence des lobbies agricoles qui ont réussi à vider de sa substance la loi alimentation examinée au Sénat et à l'Assemblée au printemps dernier. Il s'opposait notamment au ministre de l'Agriculture Stéphane Travert et notamment sur la cause animale.
Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé, je vous propose d'écouter une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.
Moi je souhaite que, et je prends même l'engagement, que ce soit interdit dans les grandes surfaces de vendre des œufs issus des élevages en batterie.
Juste après cette annonce, colère des producteurs qui interpelle Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Et là, le candidat lâche déjà du lest. Tendez l'oreille, c'est un extrait d'une vidéo publiée sur son compte Facebook et le son n'est pas très bon.
Je ne vais pas en faire un objectif de campagne au gouvernement. Donc, on va la fermer là-dessus.
Alors, ce que dit Emmanuel Macron, je le répète, à propos de sa promesse, c'est « je ne vais pas en faire un argument de campagne, donc on va la fermer là-dessus ».
Et alors, un an après ces propos, Laetitia, la loi alimentation arrive à l'Assemblée nationale. Est-ce que la promesse faite par Emmanuel Macron tient toujours ?
Alors à ce moment-là, oui, puisque plusieurs amendements prévoient d'interdire les œufs issus de poules en cage, mais les organisations professionnelles remontent au créneau, le gouvernement recule, et là, c'est une véritable machine de guerre qui se met en place. Le premier maillon du dispositif, c'est la nomination d'un éleveur comme rapporteur de la loi, un poste clé, comme l'explique l'ex-député UDI Yves Jégot.
C'est important le rapporteur, c'est celui qui est l'interlocuteur du gouvernement. Sa profession, c'est éleveur. On voit bien que la personnalité même du rapporteur, qui a été choisi par le gouvernement, était une personnalité qui n'était pas neutre. En tant qu'éleveur, il s'opposait à toutes les mesures qui pouvaient être favorables au bien-être animal et qui pouvaient être considérées comme peut-être défavorables à l'agriculture traditionnelle.
Le deuxième étage de la fusée, c'est qu'à l'Assemblée, le groupe La République En Marche verrouille les votes. Résultat, plusieurs députés qui avaient déposé des amendements sur le bien-être animal renoncent à les défendre. C'est le cas de Loïc Dombreval.
Je me suis rendu compte qu'il était inutile d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'avais un veto strict, définitif, sur un certain nombre d'amendements que je voulais porter.
Quand vous parlez d'un veto, c'est un veto de qui ? Vous dites « j'ai eu un veto ».
Veto du gouvernement, veto du cabinet du ministre, veto du rapporteur et de la responsable de texte.
Vous voulez dire que c'est le ministre qui vous a appelé pour vous dire « non, ça, ça passera pas » ?
Mais c'est comme ça, toujours comme ça que ça se passe. Il y a une négociation entre le ministre, les députés et les rapporteurs.
Au final, l'interdiction des œufs de poule en cage, promise par Emmanuel Macron, est passée à la trappe. À la place, le gouvernement a demandé simplement aux producteurs de s'engager dans ce qu'on appelle un plan de filière. En clair, on compte simplement sur leur bonne volonté.
Et alors Laetitia, comment Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture qui défend ce texte, justifie cette volte-face ?
Il nous a expliqué qu'une loi, finalement, ça ne sert pas à grand-chose.
Vous savez, l'histoire nous montre que sur beaucoup de sujets, il y a des choses qui ont été inscrites dans la loi sans pour autant que les choses soient effectives au moment où la loi devait s'appliquer. Tout ne peut pas être dans la loi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la loi que l'on ne fait pas.
Donc pas d'interdiction des œufs issus de poules en cage dans la loi, pas d'obligation de caméra vidéo dans les abattoirs dans la loi. Et ce sera la même chose pour les poussins broyés et pour les porcs castrés à vif.
Merci beaucoup Laetitia Cherel. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Du soleil demain à peu près partout sur le pays, excepté sur les reliefs et de l'ouest de la Bretagne jusqu'au Jura, où les nuages parfois bien présents pourront occasionner quelques risques d'averses. Température maximale entre 20 et 24 degrés dans l'est, 23 à 28 degrés ailleurs.